Né à Douala, au Cameroun, en 1986, Max Lobé arrive en Suisse à 18 ans pour des études en communication et journalisme à Lugano. Puis il fait un master en politique et administration publique à Lausanne. L'écriture l'accompagne depuis toujours. En 2009, il reçoit le prix de la Sorge de l'Université de Lausanne pour sa nouvelle « Le baccalauréat ». En 2013, son roman « 39 rues de Berne » aux éditions Zoé fait sa renommée, un succès confirmé par son livre « La Trinité Bantou », finaliste du 14e prix des 5 continents de la francophonie. Avec une écriture vive et inventive où sa culture d'origine est omniprésente, Max Lobé parle de la science, il parle même de la société, de la politique, de l'exil, de la prostitution, de l'homosexualité, de la pauvreté ou encore de la richesse multiculturelle. Aline l'a rencontré à Genève au Café Remords.
J'avais toujours su que mes mères finiraient un jour ou l'autre par m'accepter telle que j'étais. Mais je ne savais pas que cette acceptation se ferait aussi gaiement, avec de si bons mots. Après tout, certaines de mes mères venaient de pays où les gens comme ça ne sont pas les plus aimés. Mbila, par exemple, venait du Cameroun, où les présumés d'Epsos sont emprisonnés. Charlotte venait du Nigeria, qui les lapidait à cœur joie. Extrait de 39 rues de Berne, écrit par Max Lobé, aux éditions Zoé.
Ladies and gentlemen, we are arriving in Geneva. On track 2, the exit on the right-hand side, direction of travel.
Quand c'est que vous avez commencé à écrire, à vous dire « Ah tiens, j'aimerais bien écrire un livre ».
C'est une longue histoire, mais je pense qu'en général, l'écriture, c'est déjà dans mon adolescence, j'ai été très vite écarté parce que je n'étais pas un enfant comme les autres, j'arrivais pas à jouer au football. Et un petit garçon qui n'arrive pas à jouer au football, c'est un scandale. Du coup, j'étais le plus vilain canard. Et donc, j'ai très vite rejoint le club des commérageuses. Et donc, je me suis retrouvé dans les pattes de ma mère. Et là, vous voyez les histoires qui m'ont formé, quand elle commence à dire mon mari a fait ça, il a fait ça, je vous dis, aïe, c'est vraiment, et très vite j'ai vécu avec ces mères là, qui étaient de grandes conteuses, qui jusqu'à aujourd'hui, elles vous racontent une histoire, peut-être un petit truc, mais elles en font un immense hommage, quand je raconte des exagéreuses, c'est vraiment ça, je sais pas, elle a mal à la tête, elle vous dit qu'on lui a, elle a une sinusite, elle a un cancer, à la tête, pourtant c'est un petit truc, un dafalgan et puis c'est tout, mais pour vous mettre toujours en état d'alerte. Et j'ai grandi avec ça, mais vraiment j'étais tout petit, il y avait toujours ces histoires, elles racontaient ce que faisait leur mari, ce que font les enfants. Ah tu sais ma fille, je l'ai vue récemment, est-ce que tu sais qu'elle sort avec ce voyou là? Mais ce voyou, mais il faut le frapper, il va détourner ta fille. Donc toutes ces histoires, très tôt, j'avais 5-6 ans, ça rentrait dans mes oreilles. Une fois, je suis intervenu, j'ai gâté l'ambiance. Et à partir de là, ma mère, elle m'a mis de côté, on me donnait des journaux. Toujours des articles politiques ou des articles sociopolitiques, Alia. Et après, la littérature est arrivée tout petit à petit, puisque j'étais un peu esselé. Et donc, pour ne pas parler seul, j'ai commencé à écrire des petits trucs, à écrire. Et puis c'est comme ça que c'est venu. Et donc, je me suis dit, j'ai pas envie d'écrire comme un Français, puisque c'est pas mon identité. C'est pas mon manteau. Alors, je veux écrire dans un français qui m'est proche. Je veux me reconnaître à l'intérieur. Je veux utiliser des expressions que j'utilise tout le temps avec ma mère. Pourtant, on parle français. C'est un combat aussi personnel pour moi. Il faudrait bien qu'on sache que la francophonie n'est pas française, encore moins parisienne. Pour moi, la francophonie purement linguistique, elle est trop belle, trop, trop belle. Vous partez au Sénégal, vous écoutez des mots en Côte d'Ivoire, mais des mots, vous écoutez des chansons, vous vous dites, mais ah bon, ils appellent ça comme ça. Et pourquoi les Français ne reconnaissent pas ça? C'est ça qui est bizarre. C'est ça.
Vous parlez avec beaucoup de métaphores hein, dans vos livres. Vous parlez aussi que parfois, il y a des Africains qui deviennent un peu des noix de coco. Noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur.
Mais bien sûr, ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 11 ans que je vis maintenant en Suisse. Le temps passe, hein. Ah, bientôt 30 ans. Je commence à faire ma crise de la trentaine. J'ai acheté des containers de Botox pour prévenir, on ne sait jamais, avant que les prix n'augmentent. Non, mais bon, bref, je veux dire, évidemment, on ne peut pas vivre en Suisse pendant une dizaine d'années et rester inchangé. Ou alors, on est un bloc de glace. Mais qui suis-je? Là, c'est la question que vous me posez. Qui suis-je? Moi, je suis avant tout un Bantou. Que l'histoire a fait camerounais et avec beaucoup d'influence, même suisse. Quand on dit influence suisse, ça veut dire quoi? J'ai vécu au Tessin, j'ai vécu à Lausanne, à Genève, je vais très souvent en Suisse alémanique, notamment orientale, pour plus citer encore le canton des Grisons que j'aime beaucoup, où j'étais encore la semaine dernière. J'entends, finalement, qui suis-je? Parce que si je prends un Grison qui est à l'autre bout de la Suisse et un Genevois, ils n'ont rien de commun. Vous savez, quand vous arrivez au Grison, à Davos, et puis vous dites « bin aus Genf », les gens vous regardent « also Genf, also Schweiz », on dit c'est incroyable, c'est comme si j'arrivais d'un pays lointain. On est en Suisse, et c'est trop petit. On n'est pas imperméable, mais ce que je suis, c'est ma racine. C'est le petit... C'est ce petit garçon à Douala qui mangeait son riz et qui attendait son morceau de viande. Et qui, voilà, c'est ça, c'est ce que je suis vraiment. Parce que, évidemment, je peux changer, je peux m'adapter à plusieurs cultures. Je vous disais tout à l'heure, on peut laisser un bâton dans l'eau pendant 100 ans, il ne se transformera jamais en crocodile. Je peux passer toute ma vie ici. Je vais bien sûr être, et je me sens à bien des égards genevois. Mais au fond de moi, il y a toujours, quand je réfléchis par rapport à un problème, notamment un problème social, il y a toujours un truc de mon enfance, de cette vraie culture, de cette racine-là, qui vient.
Il met de la magie, mine de rien, dans tout ce qu'il fait. Il a le sourire facile, même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler.
Est-ce que vous avez été victime, vous, de discrimination en Suisse?
La discrimination, il y a partout, qu'on soit camerounais, qu'on soit femme, qu'on soit homme, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, il y a toujours des discriminations. Je pense que la discrimination, comme par exemple le racisme, c'est une connerie universelle. Dans la plupart des cas, j'ai toujours essayé de ne pas penser que c'était quelque chose de personnel. J'ai un esprit assez positif par rapport à ces choses. Vous savez, le racisme, c'est partout. C'est partout, même en Afrique. Est-ce que maintenant je vais dire « Oh, pauvre de moi, noir, en Suisse, c'est moi qui sont en train d'attaquer parce que je suis moi, Max Lober, parce que je suis moi, noir ». Non, ça ne m'abat pas. Alors, bien au contraire, ça ne m'abat pas, ça me fait me relever encore plus, prendre encore plus d'initiatives et me dire que Je vais y aller, je peux vous assurer, c'est bien plus difficile quand on est noir et immigré, homo, que lorsqu'on est blanc, hétéro, suisse ou européen, en général, ici. Ça ne me gêne pas, ça ne me gêne pas. S'il y a des combats à faire, je vais les mener, je n'ai pas peur des combats. Je trouve ça jouissif, orgasmique de mener un combat. Vous savez, ce que je n'aime pas, c'est quand on juge vite. Je ne veux pas qu'on me juge vite. Quelqu'un peut me voir, il voit que je suis noir, j'ai des dreadlocks, je suis au paquis, je suis peut-être en train d'attendre quelqu'un et je fume dans la rue, je suis là, debout. Et il pense que oui, selon les informations qu'il a, il les met ensemble, il se dit « je suis vendeur de drogue, il peut venir vers moi ». Alors moi, ma réponse, c'est laquelle? Je lui dis « je n'en ai pas, mais je peux vous donner un roman si vous voulez ». Vous voyez, c'est l'expérience qui va faire que la personne va changer de stéréotype. Mais tant qu'il n'a pas vécu autre chose, il ne pourra pas se dire « mais tiens, la dernière fois quand même, ça n'a pas marché ». Je pense que même moi, je fonctionne avec les stéréotypes. Mais qui donc dans ce monde ne fonctionne pas avec les stéréotypes? Qui lève la main? Quand un stéréotype se transforme en préjugé, c'est là où ça devient dangereux. Quand on commence à dire « je ne donne pas l'appartement à cette dame parce qu'elle est noire » et parce que le fait d'être noire veut dire qu'elle est sale, qu'elle fait du bruit, là, ça commence à être dangereux. Mais si on dit « cette dame, je ne sais pas, elle est noire, elle doit venir d'Afrique », bah, c'est un stéréotype, oui. Oui.
Max Lebé au micro de Aline dans ce portrait du mois. Et pour prolonger la rencontre, n'hésitez pas à aller sur le site de Django où vous trouverez d'autres extraits de ce reportage ainsi que toutes les références dont on a parlé ce soir ainsi que les références de ses livres. Et puis je vous cite encore l'article de l'événement syndical qui est à retrouver sur événement.ch.